Tarassol et bord de Loire, émission spéciale sur le Sanitas. Bonjour Gomassir.
Bonjour.
Alors Gomassir, vous êtes docteur en histoire de l'art contemporaine à l'université de Tours et chercheur associé au sein du laboratoire Intrus. Peut-être que vous voulez expliquer ce qu'est l'Intrus pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas.
Alors c'est un laboratoire de recherche qui réunit à la fois des historiens de l'art. Le laboratoire a été fondé en 2009 par Éric de Chassé, historien de l'art de la période contemporaine, qui aujourd'hui est le directeur de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Et c'est un laboratoire qui réunit donc des historiens de l'art, mais aussi des philosophes, des sociologues, des géographes, autour des questions des transferts artistiques et culturels entre les différentes disciplines et entre différents territoires. Donc par exemple, pour mon champ de spécialité qui est l'histoire de l'architecture, on va essayer de rechercher un petit peu comment est-ce que les différents courants, les différents styles se sont métissés, on va dire, d'un territoire à l'autre, d'une époque à l'autre. On va voir comment est-ce que le champ disciplinaire de l'architecture va entretenir des relations également avec les autres sciences sociales et avec les sciences techniques. Donc on est sur un laboratoire de recherche qui est effectivement pluridisciplinaire.
Si vous êtes venu aujourd'hui, c'est parce que dans le cadre de votre master, vous avez fait un mémoire, mention très bien, disons-le tout de suite, sur le Sanitas. Est-ce que vous voulez nous expliquer quel était votre sujet ?
Alors, ce travail de Master 2 s'inscrivait dans un programme de recherche du service régional de l'inventaire. En fait, dans chaque région, il y a ce qu'on appelle un service régional de l'inventaire qui dépend du ministère de la Culture, et l'une des missions de l'inventaire général du patrimoine qui a été fondée par sous André Malraux, c'est de recenser finalement le patrimoine architectural, le patrimoine bâti qui existe sur le territoire. Alors, par patrimoine, on entend évidemment les choses qui sont anciennes, très anciennes, mais l'une des missions de l'inventaire, c'est aussi de s'attacher à regarder ce qui existe, quelle que soit son époque, y compris donc pour des périodes assez récentes du XXe siècle, voire du début du XXIe. Et l'inventaire régional avait, en 2009, lancé un programme appelé Val-de-Loire et Reconstruction, puisque nous sommes sur un territoire, la vallée de la Loire, mais aussi la vallée du Cher, la vallée du Loir, etc., qui a été assez lourdement touché par les destructions de guerre dans les années 1940, 1944, 45, et un certain nombre de villes, Blois, Tours, Saint-Pierre-des-Corps, Orléans, Gien, etc., ont été touchées à divers degrés par ces destructions et ont été concernées dès 1940, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, par des plans de reconstruction. Et c'est dans le cadre de ce programme régional que j'ai été amené à travailler sur le quartier du Sanitas, qui est un quartier à la frontière, à la lisière finalement, entre la période de la reconstruction et celle des grands ensembles.
Bon, alors voilà pour l'explication scientifique et rationnelle, mais pourquoi vous avez choisi ça ? Comment vous êtes retrouvé ? Pourquoi vous avez choisi le Sanitas et pas un autre sujet ?
Alors, on pourrait dire que le Sanitas, si on le considère au niveau local, est déjà un quartier assez exceptionnel. Exceptionnel par son ampleur, on compte quasiment 4000 logements, exceptionnel par sa localisation, exceptionnel aussi par sa réputation, je pense que nous y reviendrons. C'est un quartier que tous les Tourangeaux connaissent, mais que tous les Tourangeaux méconnaissent également. C'est un quartier qui a une qualité architecturale, nous y reviendrons aussi, je pense, réelle. Et au niveau national aussi, c'est un quartier qui est tout à fait singulier, puisque lorsque l'on parle de grand ensemble, on a tendance à imaginer des quartiers situés à la périphérie des villes. Or, ici, on est sur un quartier qui commence à 500 mètres de la place Jean Jaurès. Et c'est cette espèce d'étrangeté, finalement, d'avoir une forme architecturale caractéristique de cette période des Trente Glorieuses à proximité immédiate du centre historique de la ville de Tours, qui d'emblée était intrigante. Ensuite, dans le cadre des activités de l'université, on mène, mon directeur de recherche qui était à ce moment-là, Jean-Baptiste Minart, effectuait depuis déjà un certain nombre d'années des travaux, menait des travaux de mémoire, de master, de maîtrise sur différents quartiers de la ville de Tours et le Sanitas devait encore être traité.
Donc c'était pas vraiment un choix en fait, ça s'est un peu imposé à vous ?
Alors, j'avais travaillé en fait dans le cadre de mon master 1 sur un autre grand ensemble, le grand ensemble de la vallée du Cher, c'est-à-dire les rives du Cher, les fontaines, Roche-Pinard. Et c'était déjà à la fois une période chronologique qui m'intéressait par ces jeux d'acteurs, une période architecturale que je trouvais aussi intéressante, d'autant qu'elle est souvent assez décriée, assez méconnue, assez caricaturée aussi. Et ce qui était aussi intéressant sur le Sanitas était qu'il y avait toute une masse d'archives, c'est-à-dire ce matériau à partir duquel travaille l'historien, toute une masse d'archives qui était encore assez inédite, qui n'avait pas encore été exploitée. Et donc, en tant que jeune chercheur, j'avais à ce moment-là 21-22 ans, c'était assez exaltant de plonger dans des documents qui n'avaient pas été ouverts finalement depuis les années 50, depuis les années 60.
Quelle a été votre démarche intellectuelle ? Comment vous avez défini une aire d'étude ? Et puis, toute cette documentation, parce que vous nous dites qu'il y en avait énormément, comment on fait le tri là-dedans? Est-ce qu'il faut tout lire? Est-ce qu'il faut trier? Combien de temps on y consacre? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des manques? Parce qu'en lisant votre travail, vous dites aussi que ce qui n'apparaît pas, c'est toutes les archives de l'architecte.
C'est ça. Alors, les questions de méthodologie, ça occupait 20 pages dans mon mémoire, mais j'aurais dû en faire plus. Déjà, pour ce qui est de la délimitation, finalement, du périmètre, ce qu'on appelle les bornes du sujet, c'est un peu la grande tarte à la crème en histoire de l'art. Dès qu'on ne travaille pas sur une œuvre précise, telle qu'une peinture, telle qu'une sculpture, ou un bâtiment unique. Là, on est sur un quartier, et un quartier, c'est pas si facile que ça à délimiter. Et j'ai retenu, finalement, comme élément discriminant, eh ben, la signature de l'architecte Jacques-Henri Labourdette pour savoir un petit peu où m'arrêter. Et en fait, j'ai voulu savoir tout ce qu'il avait fait, cet architecte Jacques-Henri Labourdette, dans ce quartier. Et c'est ce qui m'a servi un petit peu à délimiter les bornes géographiques, on va dire, du sujet. Après, à partir de quel matériau est-ce qu'on travaille quand on est historien de l'architecture ? On travaille déjà à partir des observations sur le terrain, on regarde les bâtiments, on regarde les formes architecturales et urbaines, on essaie de savoir comment est-ce que c'est construit, on essaie de savoir comment est-ce que les choses ont évolué depuis leur construction. Ce qu'on veut faire aussi en tant qu'historien de l'art, c'est replacer des bâtiments, replacer des formes architecturales et urbaines dans une généalogie. Essayer de voir dans quel grand courant stylistique, dans quel grand courant de pensée, est-ce que ça s'inscrit. Je suis historien de l'art, je ne suis pas historien de la construction, je ne suis pas architecte, mais j'essaie aussi de savoir comment est-ce que ces bâtiments ont été techniquement construits, d'autant qu'on est dans un contexte assez aigu qui est celui des pénuries de l'après-guerre des années 50 et puis d'un besoin quantitatif extrêmement criant. Bon. Et d'autre part, l'architecture, c'est un petit peu la manifestation dans l'espace des enjeux d'une société. Mies van der Rohe, l'architecte, disait l'architecture, c'est la volonté d'une époque matérialisée dans l'espace. Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à travers l'architecture, on va essayer de voir ce qu'on peut trouver, ce que nous dit l'architecture de la période dans laquelle elle a été édifiée. Et donc, à travers cette opération de grand ensemble, j'ai essayé de saisir aussi ce qu'on pourrait appeler les jeux d'acteurs, c'est-à-dire les rapports entre architectes, ingénieurs, technostructures, ministères de la reconstruction et du logement, les politiques locaux, les hommes de l'art, etc., etc. Et donc tout ça, ça donne un très très grand nombre d'archives finalement. Il y a les archives des architectes, les archives de la mairie finalement, c'est-à-dire des archives d'ordre politique, des archives administratives aussi, celles du ministère, celles de la direction départementale de l'équipement, en tout cas son équivalent. Et donc tout ça, ça donne une masse de papier qui représente des dizaines et des dizaines de dossiers qu'il faut aller trouver déjà, s'ils existent encore, et ensuite qu'il faut éplucher patiemment pour essayer de constituer peu à peu sa problématique et son plan. Parce que c'est une chose de dire je vais travailler sur un grand ensemble, mais après quelles sont les questions qu'on veut se poser, quelles sont les questions qu'on veut poser au sujet. Et ça, la constitution des archives et leur manque et leur lacune aiguillonnent finalement cette problématique.
Quelle différence vous faites entre votre travail et le travail d'un journaliste, d'un sociologue ou tout autre domaine? Qu'est-ce qui est spécifique vraiment au vôtre?
Qu'est-ce qui est spécifique à un historien de l'art? Ça va être s'attacher, je le disais, à la description architecturale. Alors, ce qui peut, du coup, nous faire passer, je dirais, presque un petit peu pour des cuistres, parce que peut-être que on part dans des débats d'esthète quant à la qualité architecturale, à la qualité visuelle, à la qualité constructive de bâtiments sur lesquels les sociologues, les anthropologues auraient beaucoup d'autres choses à dire quant au vécu des habitants. Et c'est toujours un petit peu le problème que nous avons, nous, historiens de l'art, quand nous intervenons sur les grands ensembles, c'est que nous pouvons dire « c'est beau », nous pouvons dire « c'est intéressant », « c'est beau », il y a déjà un jugement de valeur derrière cela, mais en tout cas, « c'est intéressant », mais que vaut cet avis esthétique lorsque on évoque des opérations de rénovation lourde, lorsque l'on évoque des opérations de démolition qui sont, elles, destinées peut-être à améliorer au quotidien le vécu des habitants. Quel est notre rôle, nous, par exemple, en tant qu'historiens de l'art, dans le débat sur l'avenir des grands ensembles? Est-ce que ça doit se limiter à dire « c'est intéressant sur le plan esthétique » ? Est-ce que ça doit se limiter à dire « c'est beau » ? Oui et non. Mon travail en tant qu'historien de l'art, c'est aussi, je dirais, de dire que ces grands ensembles ne sont pas une génération spontanée. Ils répondent à un besoin de société, un besoin quantitatif. Ils répondent aussi à une intelligence. On a souvent tendance à penser que les grands ensembles, c'est de la construction bâclée, c'est un travail paresseux, c'est un moment où on a perdu tout sens artistique, alors que ce sont des bâtiments qui sont intelligents et qui correspondent à une réelle volonté humaniste aussi des architectes et des maîtres d'ouvrage de l'époque, puisqu'il s'agissait de répondre à une crise du logement qui était sans précédent. Donc je dirais que notre rôle en tant qu'historien et en tant qu'historien de l'art, c'est de remettre un petit peu de la densité dans ce débat en disant voilà ce qui existe, c'est pas parfait, ça correspond peut-être plus à nos usages, à nos besoins d'aujourd'hui, mais au moment où ça a été construit, eh bien, ça a été voulu. Les grands ensembles, ce n'est pas quelque chose qui a été subi. C'est ça qu'on essaie de dire aussi en retrouvant des documents d'archives.
Alors vous interrogez aussi, on fait de cuistrerie sur votre légitimité à traiter ce sujet, parce que peut-être que vous pouvez redire pour nos auditeurs, vous vous demandez est-ce que vous êtes légitime pour parler du Sanitas, pourquoi ?
C'est toujours difficile pour un historien de l'architecture de parler de lieux qu'il n'habite pas. Alors, personnellement, je n'habite pas effectivement au Sanitas, même si j'y ai traîné mes semelles plus d'une fois. Et lorsque l'on parle avec un certain nombre d'habitants, la plupart n'accordent pas de valeur architecturale au sens esthétique particulière au bâtiment où ils habitent. L'avis est généralement plus tranché encore quand ce sont des gens extérieurs au Sanitas. Bon, alors, vous parliez de légitimité ou d'illégitimité de l'historien à intervenir. Ce n'est pas à moi de dire aux habitants, mais rendez-vous compte, vous habitez dans un endroit qui est beau. Ça, c'est de l'ordre de l'affect, de la considération personnelle. Je peux dire, effectivement, en opérant des rapprochements avec d'autres bâtiments, des rapprochements stylistiques, je peux dire que ces bâtiments, eh bien, ont des rapports de proportions, ont un procédé constructif qui est assez intéressant, assez intelligent, etc., etc. Mais ma valeur ajoutée première, je pense, en tant qu'historien de l'art, c'est, je le disais, essayer de redonner un petit peu une dignité à l'histoire du grand ensemble, en disant une fois encore que ça n'est pas quelque chose qui a été subi, c'est quelque chose qui a été voulu et qui s'inscrit eh bien, dans une espèce de continuum historique aussi, puisque lorsque l'on regarde en particulier l'histoire du Sanitas, on s'aperçoit que cette idée d'implanter un grand quartier à l'emplacement des anciennes emprises ferroviaires de la gare de Tours, eh bien, on l'a trouvé déjà bien avant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire dès les années 1920.
Jacques-Henri Labourdette, c'est un nom qui évidemment revient beaucoup dans votre travail. Vous l'avez déjà évoqué. Vous pouvez nous préciser qui c'est et pourquoi? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une parenté peut-être avec Sarcelles et Orléans, sur le quartier du Sanitas.
Alors, je vais remonter un petit peu en arrière, en fait, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tours, à ce moment-là, est assez largement détruite dans son quartier autour de la rue Nationale. Et ce qu'on appelle le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, en 1946, nomme un architecte parisien, Pierre Patou, pour reconstruire ce quartier de la rue Nationale. Alors, pourquoi est-ce que le ministère nomme un parisien ? C'était un moyen de désamorcer les rivalités locales qui n'auraient pas manqué de d'éclore face à l'ampleur de la tâche. Bon. Et lorsque finalement le ministère à nouveau engage en 1953 les études pour le quartier du Sanitas, la ville de Tours est assez résistante quant à la perspective de voir à nouveau nommer un architecte parisien. La rue Nationale n'avait pas du tout été appréciée des Tourangeaux, qui l'avaient jugée assez laide, la bibliothèque municipale également. Donc il y a une sorte de poujadisme, je dirais, latent dans la municipalité de Tours au cours des années 50 vis-à-vis de l'administration centrale. Mais du côté du ministère, du côté de Paris, on dit la ville de Tours met une mauvaise volonté évidente à racheter les terrains de la gare à la SNCF et à y construire des nouveaux logements. Donc le ministère va en fait fournir l'argent pour construire ces logements le plus rapidement possible, mais en échange va nommer son propre architecte urbaniste. Et cet architecte urbaniste, c'est donc Jacques-Henri Labourdette, qui est à ce moment-là un homme assez jeune, hein, il a une quarantaine d'années. Jacques-Henri Labourdette qui n'a jamais rien construit à Tours, qui ne connaît pas la ville, mais ce n'est pas tellement grave, en fait. Il s'est fait connaître en participant avec succès à la reconstruction de Beauvais, et en 1954, au moment où il est nommé à la tête de la construction du quartier du Sanitas, il engage aussi les premiers chantiers donc de Sarcelles, ce gros bourg du nord de Paris qui va connaître une expansion extrêmement importante, puisque Labourdette construira 10 000 logements à Sarcelles en 20 ans.
Désamorcer les rivalités locales en nommant un Parisien, est-ce que c'est une façon de ne pas choisir, en fait ?
Oui, bien entendu, il s'agissait d'éviter finalement des jalousies à l'intérieur de ce microcosme architectural tourangeau. Alors, je pense qu'il y avait aussi une deuxième question qui était celle des compétences, en cela que, non pas que les architectes tourangeaux n'étaient pas talentueux ou n'étaient pas compétents, mais il y avait aussi dans la décision du ministère l'idée de nommer quelqu'un qui soit acquis à de nouvelles doctrines. Et ces nouvelles doctrines, c'est celle finalement des grands ensembles. Et il n'y avait pas encore de grands ensembles à Tours au début des années 1950. Et il s'agissait donc de nommer un homme de l'art qui ait cette compétence technique pour mener à bien des chantiers de plusieurs centaines, voire de milliers de logements sur un temps très court, première chose, mais qui, d'autre part, ait en termes d'idéologie, en termes de doctrine, des conceptions résolument modernistes, dans la lignée finalement de personnalités comme Le Corbusier.
Donc finalement c'est une façon aussi d'imposer un modèle.
Tout à fait, d'imposer société. Un modèle urbanistique que le ministère veut imposer sur l'ensemble des territoires, du territoire. Les grands ensembles ont été, à partir de 1951, 52, 53, une politique nationale, et le quartier du Sanitas, en fait, fait partie de ce qu'on appelle la politique dite des secteurs industrialisés. Alors, le nom est assez barbare, mais en fait, derrière cette terminologie, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a cette idée que en France, à la fin des années 40, au début des années 50, on construit trop peu. On construit 100, 120, 150 000 logements par an, là où il en faudrait le double ou le triple. Parce qu'on a non seulement les sinistrés de guerre à reloger, et puis il y a le baby-boom. Il y a tout un tas de nouvelles familles. Et on a en plus à Tours, mais aussi ailleurs, un problème de déficit des logements existants en termes de confort, en termes d'eau courante, en termes d'équipement sanitaire. Donc on a des logements mal équipés, surpeuplés et en nombre insuffisant. Et ça, à peu près partout en France et à Tours en particulier. Donc l'idée du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, l'idée d'Eugène Claudius Petit, qui à ce moment-là est le ministre, c'est si on a des dizaines ou des centaines de milliers de logements à construire au niveau national en un temps très court, eh ben on va aller vers des conceptions standardisées, vers des conceptions normalisées, pour passer des marchés avec des entrepreneurs qui vont être des marchés de plus en plus importants. Vous avez 20 000 logements à construire, je dis un chiffre au hasard, à Dunkerque, à Tours et à Marseille, ces 20 000 logements, ils vont avoir besoin des mêmes portes, ils vont avoir besoin des mêmes fenêtres, ils vont avoir besoin des mêmes placards. Donc, on va aller vers la standardisation, la normalisation, en passant, c'est pour ça qu'on parle de secteur industrialisé, en passant des marchés à des entrepreneurs, à un échelon industriel, et on va donc aller vers la préfabrication, la standardisation, la normalisation, pour finalement simplifier la conception du logement et le rendre plus économique et plus rapide à mettre en œuvre.
On revient à ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, il n'y a aucun hasard.
Après ça, on va dire que c'est la théorie. Dans les faits, il y a eu des variations, en particulier à Tours, on a utilisé pour le Sanitas de la pierre de taille. Ce qui n'a pas vraiment été le cas dans d'autres régions. Ça a permis une meilleure intégration, je crois, au paysage ligérien, au paysage tourangeau, que d'utiliser des matériaux locaux. Et puis, aujourd'hui, on en mesure les bénéfices, puisque ça a une tenue dans le temps, une capacité comme isolant qui est supérieure au parpaing, qui est supérieure au béton. Bon. Là où il y a eu des effets délétères sur quant à cette politique de massification de la construction, c'est que on est allé petit à petit vers une déqualification du logement. Je veux dire par là que l'artisanat français, le milieu du bâtiment en France, était connu, réputé en Europe au début du XXe siècle pour être l'un des meilleurs qui puisse exister. Or, après la Seconde Guerre mondiale, on manque cruellement d'artisans. C'est même pas tellement une question de manque d'argent, c'est on manque d'artisans. On manque de carreleurs, on manque de plâtriers, on manque de plombiers, d'électriciens, de tous les différents corps de métier. Bon. Face à ce manque de main-d'œuvre, on va aller en chercher, notamment dans les colonies, mais aussi en Italie, en Espagne, au Portugal. Mais le plus logique, l'effet le plus immédiat peut être obtenu en simplifiant finalement la conception et en essayant de préfabriquer le plus d'éléments possibles du bâtiment en usine, ou alors directement dans le cas des bâtiments du Sanitas dans les carrières, on préfabrique finalement les blocs de pierre de taille directement dans les carrières afin de limiter le nombre d'ouvriers intervenant sur le chantier.
Si on ouvre le volume consacré aux photos, parce que là vous nous avez donné déjà beaucoup d'informations, on s'aperçoit quand même qu'il y a des rimes plastiques assez saisissantes dans la façon dont les bâtiments, les immeubles ont été, si on peut dire, déposé sur l'espace. On voit qu'il y a ça serpente, il y a des S, enfin, on peut voir plein de choses dans cette façon d'agencer les bâtiments. Est-ce que l'architecte s'est amusé à faire ça, ou est-ce que ça répondait finalement
Il y a deux effets. Il y a un effet de mode, si on peut dire, et puis une logique qui est plus pragmatique, économique, constructive. Cette logique, c'est celle qu'on appelle le chemin de grue, c'est-à-dire que pour construire plus rapidement, en fait, on a des grues qui circulent sur des rails posés à même le sol, et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des barres, finalement, des bâtiments qui sont d'une assez grande longueur, qui pouvaient être construits à l'aide d'une seule grue qui circulait parallèlement donc à ce bâtiment. Après, le quartier du Sanitas présente une trame orthogonale qui, dans le cas de Tours, s'inscrit un petit peu dans la continuité de la grande trame définie par le croisement de l'avenue de Gramont, de la rue Nationale, et puis des boulevards Heurteloup et Béranger. Si vous regardez le quartier des Prébendes, on a un petit peu cette même trame orthogonale, cette même grille. Bon, maintenant, on a quand même une rupture d'échelle, puisqu'on a des bâtiments qui sont beaucoup plus imposants, beaucoup plus hauts, beaucoup plus longs, évidemment, que dans la ville ancienne. Alors là aussi, on est à un moment, je parlais d'effet de mode, on est à un moment dans les années 30, 40, 50, où l'automobile se développe et où, face en particulier aux épidémies de tuberculose, aux problèmes de maladies qui existaient dans l'habitat ancien, on dit, des gens comme Ludwig Mies van der Rohe ou Le Corbusier disent que les bâtiments doivent idéalement être dégagés sur leurs quatre côtés et baigner, flotter finalement au milieu de la verdure pour que l'air et la lumière puissent pénétrer à grand flot dans les logements. Donc c'est pour ça que finalement au Sanitas, la rue disparaît. Vous avez des grands axes, vous avez des places, vous avez des avenues, mais la rue, au sens où on l'observe dans le Vieux Tours ou dans le quartier des Prébendes, la rue n'existe pas. Et c'est là l'une des caractéristiques des grands ensembles. Autre chose, on peut remarquer, en particulier sur des vues aériennes, qu'on a, vous avez parlé un petit peu de ponctuation. L'espace est ponctué tous les 200 mètres par ces tours de 15 étages le long de l'axe nord-sud, l'avenue Lattre de Tassigny. On a donc cette idée du grand ensemble comme d'un espace organisé, régularisé. Et finalement, ça rentre un petit peu en résonance avec le grand axe nord-sud historique de la ville de Tours, qui était symétrique, vous le savez, avec la rue Nationale, la place Anatole France, la place Choiseul, etc. Donc, dans la logique de la Bourdette, il y avait cette idée qu'on est un petit peu dans une continuité d'esprit avec voilà, cette ville régulière, organisée, symétrique, etc. etc. La dernière chose, c'est que l'idée d'intégration à l'environnement de l'architecture, cette idée est relativement récente. Hein. On parle d'intégration à l'environnement depuis seulement les années 70-80. Ce que je veux dire par intégration à l'environnement, c'est cette idée qu'on va essayer de ne pas avoir de rupture d'échelle, de matériaux, de couleurs entre la ville ancienne et puis la ville nouvelle. Bon. Aujourd'hui, quand on construit un nouveau quartier, par exemple aux casernes de Tours, à Beaumont-Chauveau, on va essayer d'avoir des hauteurs qui vont être à peu près approchantes de celles qui existent déjà dans les quartiers anciens. À l'époque, on considère, dans les années 40, 50, 60, que la ville est quelque chose de sédimenté et que chaque couche, finalement, se superpose ou se juxtapose à une autre et que chaque époque, finalement, ne fait que répondre à ses besoins. Et les besoins des années 50, 60 étant ce qu'ils sont, il n'y a pas de problème de fond que de réaliser des immeubles, effectivement, de 15 étages à 400 mètres de la place Jean Jaurès.
Donc si on continue de regarder le volume 3, donc celui avec les photos, on voit que vous avez même fait votre propre inventaire photographique. Il y a des photos que vous avez fait vous-même. Et donc là, il est question de collision de style, de collision des formes urbaines. Est-ce que vous voulez expliquer ce que c'est ?
Le Sanitas a été construit sur d'anciennes emprises ferroviaires, une ancienne zone industrielle qui a été déménagée après-guerre à Saint-Pierre-des-Corps. Donc la Bourdette a pu disposer finalement d'une espèce de table rase sur laquelle il a construit, donc suivant cette espèce de grille orthonormée dont je parlais tout à l'heure. Mais à un certain nombre d'endroits, finalement, cette grille vient rentrer en collision avec la ville existante. Je pense sur les franges de l'avenue de Gramont, ou alors lorsque finalement le Sanitas vient buter contre les lignes ferroviaires. Donc on a comme ça des espèces de collisions où cette ville ordonnée, cette ville qui apparaît un petit peu infinie, hein, quand on est au cœur du Sanitas, vient buter contre l'architecture faubourienne qu'il y a en bordure de l'avenue de Gramont, cette petite architecture de particuliers tourangeaux du début du XXe siècle, ou alors lorsque, eh bien, voilà, cette grille régulière du Sanitas vient buter contre les voies ferrées obliques qui mènent encore aujourd'hui à la gare de Tours. Et c'est ça que je trouve assez intéressant au Sanitas, assez singulier, et c'est ce qui fait en même temps la richesse de la ville, c'est son métissage. On a différentes époques qui se superposent, qui rentrent des fois en collision, et un endroit assez intéressant à ce titre, c'est dans le petit secteur de la Rotonde. On a cette ancienne halle des machines qui servait à la réparation des locomotives qui vient voisiner avec des barres d'habitation des années 60 qui elles-mêmes finissent à quelques mètres seulement des voies ferrées qui devaient, dans le plan initial de la Bourdette, disparaître, mais qui 50 ans plus tard, 60 ans plus tard sont encore présentes.
Voilà, donc citons par exemple pour nos auditeurs voilà, la rotonde de la rue Georges Guinemer. Donc là,
oui, voilà, effectivement, où on a différentes formes d'habitation qui sont relativement peu distantes chronologiquement, parce que les petits particuliers ouvriers datent des années 1920, et 40 ans plus tard, on a ce saut d'échelle avec les barres de 50, 100, 200 mètres de long et des immeubles qui accueillent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de logements.
C'est vrai que quand on lit aussi donc toutes les annexes que vous proposez avec votre travail, on voit la tour, voilà, ils ont des noms de lettres, de chiffres, et voilà, superposé au plan où on voit cette disposition quand même très rythmée dans l'espace, ça donne quelque chose peut-être d'un peu surprenant, d'un peu magique, et voilà, peut-être que des artistes pourraient s'en servir de cette nomination des choses.
Bah, c'est une dénomination qui effectivement est statistique initialement, parce que pour se remettre un petit peu dans le contexte, Jacques-Henri Lebourdette, on lui demande en 1954 de concevoir ce qu'on appelle un plan masse, c'est-à-dire un plan d'ensemble pour environ 5000 logements. Tous n'ont pas été réalisés. Imaginez un petit peu l'ampleur de la tâche. Vous êtes architecte, bon, vous avez déjà un petit peu d'expérience quand même, mais on vous demande de livrer, évidemment pour des délais incroyablement courts, de l'ordre de quelques semaines, quelques mois maximum, le plan d'ensemble d'une cité de 5000 logements, où vont vivre 5000 familles, c'est-à-dire peut-être 20 000 personnes. Vous avez donc à la fois un pouvoir et en même temps une responsabilité qui sont absolument écrasants. Et on est à un moment où l'architecte travaille encore relativement seul, c'est-à-dire qu'il n'a pas avec lui à ses côtés de sociologues, de psychologues, d'anthropologues, finalement tout ce que les sciences humaines ont apporté et apportent depuis les années 50-60, mais qui pourrait l'aider finalement à concevoir ce quartier. Et le travail de l'architecte est un travail qui est encore relativement abstrait, puisque on le voit sur ses plans d'ensemble, eh bien, il dispose, et c'est toute la critique qui lui sera faite, il dispose sur un plan qui est une table rase, il dispose des barres, il dispose des tours comme d'un jeu de dominos un petit peu abstrait qui dessine des compositions qui rappellent un peu les tableaux de Piet Mondrian, des fois, donc des compositions assez étonnantes, assez graphiques, mais dans lesquelles il est ensuite un petit peu difficile de s'imaginer quelle pourra être la vie qui pourra naître à l'intérieur de ces immeubles. Et on a essayé, à Tours comme ailleurs, d'humaniser un petit peu cet environnement qui a été parfois durement ressenti par les premiers locataires, en donnant effectivement des noms de rues d'après des grands poètes, d'après des grands peintres, Allée des Myosotis, Allée des Pensées, Allée des Bégonias, etc., etc. Ça, on le retrouve un petit peu partout en France.
Ah, mais disons que c'est une seconde couche, la nomination poétique des choses, ça vient après.
Oui, c'est aussi ce qui est assez intéressant au Sanitas, c'est que c'est un quartier qui n'a jamais cessé finalement de changer, de muter, de se sédimenter. Alors, l'architecture est globalement restée la même, hein. On a la chance à Tours d'avoir des bâtiments qui ont été très bien entretenu. Le Sanitas est aujourd'hui dans un état assez exceptionnel par rapport à d'autres grands ensembles en France. Mais si vous regardez le traitement des espaces publics, il a totalement évolué par rapport à ce qu'on voyait dans les années 50. Déjà parce que la place de la voiture y est beaucoup plus importante, ça s'est fait au détriment des espaces verts. Et puis les espaces verts, les plantations ont été renouvelés. Les halls d'entrée ont été ce qu'on appelle résidentialisés. Et il y a eu des changements sur les parties communes. On a reconstruit par exemple le centre commercial. Il y a maintenant, peut-être que nous en reparlerons, une pépinière d'entreprise. La passerelle Fournier a été reconstruite. Donc le tramway, bien sûr, est arrivé. Donc c'est un quartier qui, dans sa volumétrie d'ensemble, est resté relativement fidèle à la conception initiale de Lebourdette, mais qui, dans son aménagement à l'échelle du sol, à l'échelle du piéton, a beaucoup évolué.
Alors, pour que nos auditeurs ne paniquent pas, parce qu'on voit dans ce que vous dites depuis le début de cette émission, un travail très précis, très minutieux, érudit, faut dire aussi que votre mémoire, il est malgré tout agréable à lire. Là, vous avez quand même un certain bien de plume, hein, c'est bien écrit, c'est presque un roman.
Il
ne
faut pas être pénible sur ce type de sujet. Voilà. Oui, vous parlez de roman, mais C'est un petit peu, je sais pas si on peut parler d'épopée pour parler des grands ensembles, mais c'est ça qui me paraît assez saisissant quant à cette période, c'est que on est à un moment où, pour être un petit peu lyrique, le pays se relève des années 40 qui ont été à tout point difficiles, où il y a une situation qui est à la fois extrêmement pénible avec des milliers de logements, de jeunes familles, de jeunes ménages qui n'ont pas une habitation décente, et on a cette envie de créer la ville de demain, de créer une ville dont on sera fier. Et face à cette envie, on a des moyens qu'on sait insuffisants, des moyens financiers qu'on sait insuffisants, des moyens réglementaires, des moyens législatifs qui sont pas forcément au niveau, et puis des moyens humains où, je le disais, pour concevoir un quartier de 5000 logements où vivront 20 ou 25 000 personnes, on a un seul architecte, alors qui a une équipe autour de lui, mais un seul décideur finalement pour décider du destin quotidien et bien de dizaines de milliers de personnes.
J'insiste quand même sur la qualité littéraire de ce travail. Est-ce que vous pensez, est-ce que ça existe déjà, est-ce que vous pourriez en faire une adaptation peut-être plus grand public ?
Ce serait bien.
Voilà.
ce serait bien, d'autant que je crois... Alors, on a déjà eu une publication parue il y a 2 ans qui s'appelle Tour métamorphose d'une ville, qui est un livre dirigé par Jean-Baptiste Minard, qui avait donc encadré mes travaux, qui revient avec Jean-Luc Porel, le directeur des archives municipales, Jérôme Baratier, le directeur de l'agence d'urbanisme, et moi-même, qui revient sur ces 2 derniers siècles en matière d'architecture et d'urbanisme à Tours. Et donc j'y parle effectivement sur une longueur beaucoup plus restreinte de l'histoire de ce quartier du Sanitas. Mais ce qu'on essaie de faire, nous, historiens de l'art, c'est à la fois un travail, vous l'avez dit, d'érudition, parce qu'il faut être précis avec les faits, mais en même temps un travail de vulgarisation pour essayer de redonner un discours sur la ville qui inclut finalement toutes les parties de la ville. Parce que aujourd'hui, quand on parle de la ville de Tours, c'est Tours, la ville Renaissance, Tours, la cité de Balzac. On est toujours dans des références finalement qui sont assez anciennes. Finalement, et quelle place a l'histoire récente, à l'histoire contemporaine dans cette espèce d'épopée qu'il y a autour de la ville de Tours. Bon, on peut parler d'icônes récentes comme le Vinci avec fierté, encore qu'il a coûté un peu cher, mais bon, c'est autre chose. Mais ce que je voulais dire et ce qu'on voulait dire au sujet des grands ensembles de Tours, c'est que ce soit au Sanitas, que ce soit à la vallée du Cher ou à l'Europe, ils ont été un motif de fierté réelle, tant pour les élus que pour les habitants. Et que la lecture que l'on peut en avoir aujourd'hui est une lecture peut-être un petit peu biaisée, parce que bah, effectivement, les grands ensembles ont connu pour la plupart des destins un petit peu contrariés, parce que s'y sont ajoutés des problèmes sociétaux, problèmes de vieillissement du bâti. Mais ça nous paraissait important de dire que tout ça n'est pas une fatalité et que les grands ensembles sont légitimes pour incorporer une histoire architecturale, une histoire artistique de la ville.
Alors justement, pour que les habitants puissent incorporer cette histoire de leur quartier, vraiment cette idée de publication, en plus vous pourriez même intégrer des photos, puisque vous en avez une collection.
Oui, les photos de construction, par exemple, sont toujours assez intéressantes et assez émouvantes. Alors aujourd'hui, il reste encore relativement peu hein, de premiers habitants, si je puis dire, du Sanitas, qui sont là depuis 1958 ou qui sont là depuis les années 60. Mais ça me paraît toujours important de montrer ce qu'il y avait avant pour dire, j'ai déjà employé le terme, mais dire encore une fois que un grand ensemble n'est pas quelque chose qui a été subi au sens qui a été inévitable. Un grand ensemble a été pensé, encore une fois, au Sanitas avec humanité, avec ambition, avec envie. Et je pense que montrer comme ça des photos sur le temps long permet d'ancrer un petit peu plus ce grand ensemble dans une histoire urbaine, au même titre eh bien, que la reconstruction du centre-ville de Tours, que la construction des différents quartiers, et puis sans doute que dans une génération ou 2 générations, eh bien, il y aura des historiens pour faire le même travail sur Mon Conseil ou sur Les Deux Lions.
Voilà, ce serait peut-être une façon aussi de proposer aux habitants, et même, enfin pas que du quartier, mais voilà, ce que Sanitas, ce quartier mal aimé, justement, si on met en avant tout ce travail par une publication ou par autre chose, ça peut aussi permettre aux gens d'être fiers de ce quartier-là.
Ce que je peux essayer de faire, c'est, en tant qu'historien de l'art, de dire que cette architecture est plus subtile que les caricature que l'on a parfois pu en faire, et ce dès les années 50 où on parle dans des journaux, des revues conservatrices pour la plupart, on parle des grands ensembles comme de casernes, comme de clapiers à lapins, d'univers concentrationnaire. On parle d'univers concentrationnaire en 1960 pour désigner Sarcelles, 15 ans après la libération des camps de la mort. Enfin, il y a toute une terminologie extrêmement dure qui a été portée non seulement contre ces bâtiments, mais par extension contre les habitants de ces bâtiments. Parce que si ces bâtiments sont différents de l'univers un petit peu bourgeois des journalistes ou des critiques ou des politiques également qui ont blâmé les grands ensembles, les habitants de ces grands ensembles ne peuvent aussi que être différents. Et c'est cette espèce de lecture très binaire qu'on essaie de rompre, de faire cesser.
Quelle place vous accordez à l'humour dans votre travail ?
Il faut un petit peu d'autodérision, on va dire, pour être historien de l'art, parce qu'on se retrouve souvent un petit peu seul quand même devant des centaines de cartons d'archives qui n'ont pas été ouverts depuis, je le disais, assez longtemps. Et puis, on a des joies, mais ça je pense que c'est le propre de n'importe quel chercheur, quel que soit le champ disciplinaire. On a des joies qui sont des fois un petit peu difficiles à partager, quand on retrouve, le nom d'un architecte sur un permis de construire qui était réputé perdu, moi ça va m'enchanter ma journée, mais je pense que mon voisin de table s'en moquera comme de l'an 40. Bon, mais ça c'est un petit peu le propre de n'importe quel chercheur, je dirais. Après, quelle place pour l'humour ? On trouve des fois des choses assez marrantes quand même dans les archives, dans les comptes rendus, en particulier des réunions qui sont organisées dans les années 1950 à la mairie de Tours, où les élus à l'époque étaient absolument incultes en matière d'architecture et d'urbanisme. Et en fait, vous voyez à travers le compte rendu des réunions qu'ils ne savent pas lire un plan. Finalement. Donc on a des fois des choses, des réflexions. Alors par exemple, un adjoint au maire de Tours de l'époque, irrité de voir Labourdette, le Parisien, débarquer, qui prévient Labourdette en lui disant « Faites attention, les Tourangeaux sont lymphatiques, il faudra que vous soyez en permanence derrière leur dos, vous feriez mieux de renoncer et de céder la place à un Tourangeau qui lui comprendra mieux ses compatriotes, etc. etc. » Et Labourdette de répondre « Ah mais attendez, moi je suis d'origine angevine, le lymphatique je connais. » Bon, enfin des petits trucs comme ça, si vous voulez, où vous vous dites mais c'est absolument dérisoire. Le niveau d'inculture des élus malheureusement était assez fort à l'époque, mais ils n'étaient pas formés aussi à ce type de problématiques. Après, l'humour, comment dire. L'humour, après, au moment de la recherche, peut survenir à des moments assez étonnants. Je pense que n'importe quel chercheur débutant, que ce soit en master ou en thèse, a déjà eu des jaillissements d'idées sous la douche, voire même en dormant, et sans rire, si je pouvais te donner un conseil peut-être à des jeunes chercheurs, c'est d'avoir en phase de rédaction toujours un calepin au pied du lit, parce que des fois on a des idées qui arrivent en plein rêve. Quand ça arrive, c'est assez réjouissant, on va dire.
On lit aussi sur le site devenir.tours, voilà. Docteur en histoire de l'art, je travaille depuis plusieurs années sur l'architecture et l'urbanisme à Tours, à la période contemporaine. Je souhaite intégrer des groupements pluridisciplinaires à la fin d'apporter mon expertise à des maîtres d'œuvre et des architectes. Alors cette présentation de vous par vous, on peut le voir sur... Je crois que c'est en lien avec les API, les oui. appels à projets innovants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et comment vous vous êtes retrouvé à vous proposer sur ce site ?
C'est que d'un côté, je suis historien au sein d'un laboratoire, mais n'étant pas titulaire et n'ayant pas de perspective immédiate de titularisation, dirons-nous, il faut bien que je mange. Donc, je travaille aussi finalement pour des architectes, pour des promoteurs, pour essayer de leur apporter précisément cet éclairage historique sur le terrain sur lequel ils vont intervenir. Par exemple, ici dans le cadre de cet appel à projet innovant qui a été lancé par la mairie de Tours et puis par l'agence d'urbanisme, il y a un des sites qui est le site Marie Curie au cœur du quartier du Sanitas. Donc j'ai proposé en fait mes services à un promoteur qui fait appel lui-même à un architecte. Cet architecte vient de Paris, il ne connaît pas particulièrement le site du Sanitas, il ne connaît pas particulièrement la ville de Tours, et ma conviction, en tout cas ce que je défends, heureusement j'ai un client finalement qui est assez d'accord avec ça, c'est que on peut concevoir un meilleur projet, à son échelle en tout cas, en ayant conscience de l'histoire du site, en ayant conscience de la manière dont les abords se sont fabriqués, se sont forgés, et de ce que peut être le ressenti, le vécu des habitants. Donc c'est essayer de remettre, encore une fois, un petit peu de contexte, un petit peu d'identité, on pourrait dire, dans le projet. Parce que c'est ça qui aujourd'hui est assez critiqué, peut-être lorsque n'importe quelle opération immobilière se fait. Les riverains vont aller dire à un architecte ou un promoteur, vous n'êtes pas légitime pour intervenir. Moi, riverain, j'habite là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai vu ce quartier changer. Vous arrivez de Paris ou vous arrivez d'ailleurs et vous ne connaissez pas cet endroit. Donc il y a souvent un procès en illégitimité qui est fait à l'aménageur. Et c'est normal, quand on habite à un endroit, on n'a pas envie de voir son environnement changer, puisque c'est un environnement qui est familier. Bon. Et donc, ce qu'on essaie de dire, ce que j'essaie de porter en tout cas comme message aux maîtres d'ouvrage, aux promoteurs, aux architectes, c'est de dire qu'il faut s'intéresser le plus possible à l'histoire du site. Pas pour copier le site, pas pour refaire ce qui existait auparavant, mais pour essayer de prendre en compte les évolutions du site sur le temps long, c'est-à-dire non seulement ce qui existe aujourd'hui, mais ce qui existait hier et puis avant-hier, pour essayer de voir un petit peu quels sont les invariants au niveau des tracés, des voiries, au niveau des échelles, des bâtiments, au niveau des matériaux, au niveau des usages également. Et donc ici, dans le cadre de cet APU sur la Cenitas, mon travail a consisté à présenter, à dire à l'architecte donc, qui intervenait en terrain connu, un petit peu je dirais, de lui expliquer bien ce que je vous expliquais depuis tout à l'heure quant à l'histoire de ce quartier et quant à la fierté aussi de ses habitants.
Vous êtes la bonne fée qui a fait défaut à la Bourdette alors ?
La bonne fée ou Merlin l'Enchanteur, je sais pas, mais... On était, je le disais, à une époque où on concevait les choses différemment. Non seulement les architectes en 1955 ne travaillent pas vraiment avec des historiens de l'architecture, sauf s'ils restauraient Notre-Dame de Paris et encore. Non, j'exagère un petit peu. On était aussi à un moment, en 1955, où le maire de Tours avait sur son bureau 6000 dossiers de demandes de logement pour des situations extrêmement urgentes. Aujourd'hui, on a toujours, à Tours comme ailleurs, un problème de mal-logement. On a toujours des situations qui sont dramatiques, mais... On a un petit peu plus de temps, on a des procédures qui sont différentes, et puis on sait que la qualité architecturale, elle vient précisément grâce à cette pluridisciplinarité où la sensibilité artistique, la science, la culture de l'architecte va être combinée à un psychologue, à un anthropologue, peut-être demain un philosophe, donc à des gens qui vont avoir une autre sensibilité, un autre discours sur la ville, et puis bien entendu à des techniciens et à des ingénieurs.
Vous connaissez les autres projets qui ont été déposés pour cette API sur le quartier Cenitas ?
Du tout, je pense que ces projets iront sans doute dans des directions assez différentes, puisque la demande qui est faite par la mairie de Tours est à la fois de reconstruire des logements qui seront proposés en accession à la propriété, de réaliser un ensemble de bureaux, de locaux tertiaires. Après, chaque porteur de projet est libre, je dirais, de proposer des activités, des accompagnements sociaux, des projets culturels également, parce que je crois que c'est ça aussi la grande différence qu'il y a aujourd'hui par rapport à la manière de concevoir la ville, par rapport à celle que l'on avait dans les années 50. Encore une fois, les méthodes et les temporalités ne sont pas les mêmes, mais aujourd'hui on essaie d'appréhender le plus finement possible les usages de la ville. Lorsque on est architecte, lorsqu'on est promoteur, on construit pas juste une coquille, on va devoir se préoccuper de la manière dont on vivra dans ce bâtiment et à la manière dont on pourra y apporter peut-être un petit plus en matière de prolongement associatif, en matière d'offres culturelles, en matière peut-être d'autosuffisance, en matière énergétique ou d'alimentation.
Votre avis, comment il va évoluer ce quartier Cenitas sur les 20 prochaines années à venir ?
C'est une question qui est difficile et qui dépend beaucoup des orientations politiques. Localement, le fait d'avoir renommé par exemple la station de tramway Cenitas en station Saint-Paul a généré, je crois, une inquiétude assez vive, puisque qu'est-ce qui fait l'identité d'un lieu ? C'est le nom. qu'on lui donne. Et les opérations de démolition-reconstruction sont, je crois, là aussi assez vivement perçues par la population, qui a la crainte de voir ses loyers augmenter. Bon, ce n'est pas une crainte nouvelle, les loyers sont encadrés, quoi qu'il en soit, mais cela s'exprimait déjà lors de la construction de la première ligne de tramway il y a quelques années, cette crainte. La crainte de voir une autre population arriver, une population plus bourgeoise peut-être, et d'assister à une gentrification du quartier, et donc que le quartier là aussi voit son identité changer. On a parlé de ghetto à propos du Sanitas. Ce terme de ghetto est inapproprié. Si l'on s'en tient strictement à une approche quantitative, oui, le Sanitas est un ghetto si on considère qu'il y a 99%, 95% plutôt de logements sociaux. Bon, si on retient la définition d'un ghetto, terme très péjoratif d'ailleurs maintenant, comme étant un quartier où il n'y aurait qu'une seule catégorie d'habitation. Bon. Sauf que si on regarde en détail le Sanitas est certes un quartier pauvre, parfois très pauvre même, mais où il y a une grande diversité d'habitants. Il y a de nombreux étudiants, avec les résidences étudiantes, mais aussi des étudiants qui vivent simplement dans les logements sociaux. Un grand nombre, une grande proportion de personnes âgées, et puis des actifs, des chômeurs, des familles d'origine immigrée, des familles venant des Antilles. Il y a une grande variété de populations, et c'est un quartier qui, évidemment, a un certain nombre de problèmes, comme dans la plupart des quartiers populaires, des problèmes de délinquance, des problèmes de trafic, mais c'est aussi un quartier qui a une identité, une fierté d'identité qui me semble assez remarquable, assez importante. Et il y a matière probablement à capitaliser sur cette identité. La question, c'est comment est-ce que on peut effectivement faire évoluer ce quartier pour qu'il vive bien, pour qu'il vive mieux. Est-ce que ça se fait uniquement en démolissant puis en reconstruisant? Est-ce que ça peut se faire sans démolir ni reconstruire? Ça, ce sont des débats qui dépassent bien évidemment largement les historiens de l'architecture. Ce sont des débats plus politiques qu'autre chose.
D'ailleurs, ça vous intéresse pas, la politique?
Bah, on peut pas parler d'histoire sans faire un petit peu, je dirais, de politique à un moment ou à un autre. L'histoire s'appuie sur des faits, mais l'historien, et l'historien de l'art n'est qu'une variante de l'historien, c'est lui qui articule les faits, qui crée les connexions, qui crée les enchaînements logiques, qui sélectionne les faits qu'il intéresse, avec une méthode, avec une recherche d'objectivité, du moins je l'espère. Mais ce que j'ai, en tout cas pour ma part, essayé de retenir de mes travaux sur les grands ensembles, bah c'est que c'est compliqué. c'est une réponse qui est un peu une la palissade peut-être, mais c'est que c'est compliqué, c'est que c'est complexe, et que sur ce type de questions, je crois qu'il faut se prémunir à tout prix de lecture binaire, qui voudrait qu'il y ait effectivement une ville caractéristique de la ville de Tours qui serait le centre à l'intérieur des boulevards, et que au-delà, eh bien, le Sanitas soit finalement une espèce d'objet asynchrone qui ne fait pas partie de la ville, et qu'il faudrait un petit peu régulariser, qu'il faudrait un petit peu mettre au pas. Bon, chaque quartier apporte un peu sa pierre à l'édifice. Chaque époque apporte sa pierre à l'édifice qui est la ville de Tours. Donc, on peut, je crois, laisser le quartier du Sanitas tel qu'il est sur le plan architectural, sur le plan urbain. Après, c'est une question de choix politique, mais je crois que les bâtiments sont, dans l'ensemble, plutôt appréciés des habitants. Alors évidemment, ils pourraient être mieux isolés, ils pourraient être plus vastes, plus spacieux, et peut-être que des démolitions-reconstructions sont, le cas échéant, opportunes. Mais il faut pas tomber, et je crois que personne à Tours ne le fait heureusement, mais il ne faut pas tomber dans cette espèce de pensée magique qui consisterait à se dire qu'à partir du moment où on supprime un bâtiment, celui de la place Saint-Paul par exemple, les problèmes de trafic de drogue qu'il y a au pied du bâtiment seraient eux aussi effacés. Évidemment, les choses sont plus complexes.
Donc on ne vous verra pas sur une liste aux prochaines élections municipales ?
Bah, si vous faites une liste d'historiens de l'architecture, j'y serai probablement. Après, la politique n'est pas le seul moyen pour un historien de l'art d'intervenir dans les débats de société. Il y a les publications, il y a les conférences. Après, c'est vrai que vous l'avez dit, c'est pas forcément des sujets qui sont faciles. Ce sont des sujets sur lesquels il faut arriver à dépasser l'espèce d'érudition dans laquelle s'enferment les historiens. Ce sont des sujets où il faut éviter aussi l'espèce de complaisance où on pourrait verser je parlais de débats d'esthètes quant à savoir à quel style, à quel courant, à quelle école d'influence rattacher les bâtiments du Sanitas. Ça, les habitants, ça ne les intéresse pas vraiment. Ce qui intéresse les habitants, c'est de savoir quel a été le mode de faire, comment est-ce que le projet a été fabriqué, quels ont été les déterminants, les critères politiques, sociaux, sociétaux, économiques qui ont présidé à la construction du quartier en 1955 et puis à son évolution depuis. Donc moi, effectivement, en tant qu'historien, en retraçant finalement tout ce fil, en retissant, en détricotant la pelote et en essayant de retisser quelque chose qui a un petit peu une allure, bah, c'est un travail se faisant politique, effectivement.
On vous voit quand même aussi régulièrement dans les médias locaux, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est un rôle pour vous, alors, si vous voulez pas être homme politique, un rôle d'expert ?
D'expert, on n'est pas formé à l'université à quelque chose de très précis, sinon à être expert de son propre sujet. J'ai fait ma thèse sur un architecte qui s'appelle Pierre Dufaux, qui, bon, ici, il a fait la centrale nucléaire de Chinon, mais on le connaît surtout comme l'architecte reconstructeur d'Amiens, après la Seconde Guerre mondiale. Et à Amiens, ils sont un petit peu dans la même situation qu'au Havre, c'est-à-dire... ils cherchent encore un petit peu leur identité. C'est une ville qui a été très largement détruite après la Seconde Guerre mondiale. La cathédrale, miraculeusement, a échappé aux flammes. Mais ils se retrouvent avec tout un centre-ville qui est aujourd'hui encore pas très aimé de la population et qui est volontiers même parfois méprisé, y compris par les élus, y compris par les politiques. C'était la même situation au Havre, finalement, il y a encore 20 ou 25 ans. Et puis, au Havre, il s'est passé un truc quand même assez intéressant, c'est qu'ils se sont dit, et si on s'appuyait finalement sur cette histoire à la base tragique, pour se dire qu'on tient là un exemple, la reconstruction par Auguste Perret, un exemple assez saisissant, une manifestation assez éclatante des possibilités humaines au milieu du XXe siècle en matière d'architecture, en matière de construction. Et il y a eu un certain nombre, effectivement, d'historiens de l'architecture, d'experts, qui sont intervenus pour dire « Voilà, monsieur le maire du Havre, ce qui s'est passé dans votre commune, et voilà pourquoi c'est rare, voilà pourquoi c'est unique, ou en tout cas, voilà pourquoi c'est intéressant. » Bon, donc, on peut être expert, mais il ne faut pas rester uniquement érudit. Je peux vous parler pendant une heure de tel ou tel bâtiment du Sanitas. Ce n'est pas là où je serai peut-être le plus pertinent. La question principale, je crois, c'est comment est-ce que nous, historiens de l'art, c'est mon point de vue en tout cas, mais comment est-ce qu'on peut participer à la compréhension par la société de l'espace dans lequel la société vit, finalement. L'espace dans lequel la société... évolue. Et c'est un petit peu la même chose que fait un historien de la peinture, un historien de la sculpture. Moi, mon travail fondamental en tant qu'historien de l'architecture, c'est essayer de regarder un bâtiment et de dire non seulement comment ça tient, comment c'est construit, mais surtout pourquoi est-ce que c'est là ? Pourquoi ça a été fait ? Quelle a été la société qui a voulu ça ? Et qu'est-ce que ce bâtiment peut nous dire de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, finalement ? C'est pour ça que j'en reviens, encore une fois, à cette phrase de Mies van der Rohe. L'architecture, c'est la volonté d'une époque matérialisée dans l'espace. Regardez l'architecture des différents régimes politiques à travers le monde. Regardez l'architecture des différentes villes en France. Ça vous dira quelque chose sur... le maire de la ville. Ça vous dira quelque chose sur la population de la ville et sur la manière dont cette population se représente, sur la manière dont ces élus, dont cette citoyenneté s'effectue aussi.
J'ai une idée fantastique, Hugo Massir, pour répondre à votre souhait de transmettre votre savoir en fait d'architecture politique. Je pense que vous pourriez venir faire régulièrement des chroniques à campus.
Ça pourrait être une idée.
Peut-être est-ce qu'il y a des sites ou quelque chose que vous voudriez indiquer à nos auditeurs s'ils veulent retrouver votre travail, enfin vos travaux d'ailleurs.
Alors, deux sites, non, mais on a à l'université au Tanner la chance d'avoir une merveilleuse bibliothèque de section d'histoire de l'art où on trouve tous les travaux, tous les mémoires de recherche des étudiants en histoire et en histoire de l'art qui sont librement consultables. Donc ça, c'est quand même tout à fait intéressant. Et puis, consulter de toute façon les librairies, les bibliothèques, parce que c'est encore dans les bouquins qu'on trouve finalement le plus de choses inspirantes, intéressantes et éclairantes. Et puis ne pas hésiter aussi, si c'est des sujets qui intéressent vos éditeurs, à aller faire des petits tours aux archives municipales, parce que tout un chacun peut rechercher le permis de construire de sa maison ou de son immeuble, et c'est déjà un moyen d'en savoir un petit peu plus sur l'endroit dans lequel on vit.
Merci Hugo Massier.
Merci.